Mondial Sport sur RFI. Éric Mamrut.
Bonsoir tout le monde. Au sommaire ce soir, l'Open d'Australie de tennis, la CAN 2019 en Égypte, un entretien exclusif avec le footballeur burkinabé Alain Traoré, Marseille-Monaco, la résurrection de Manchester United, mais pour commencer, les Coupes d'Afrique de football, c'est avec vous Eric Chorin, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Coupe d'Afrique, et bien en l'occurrence la Coupe de la Confédération. 9 matchs aujourd'hui, ce dimanche. 9 matchs aller du tour de cadrage, ce 16e de finale bis qui précède la phase de poule de cette deuxième compétition africaine des clubs. Alors aujourd'hui, l'une des affiches, Eric, c'était la rencontre qui opposait le Canton Sport de Garoua à la Chanti Kotoko de Kumasi.
Oui, un match qui a tenu ses promesses avec 5 buts, mais qui a tourné en faveur des Ghanéens de la Chanti Kotoko, vainqueur 3-2 à Yaoundé, où le match avait lieu, car celui de Garoua est en chantier. Vous savez pourquoi, Eric? Pour la CAN que le Cameroun devait accueillir l'été prochain. Coton Sport a couru après le score durant toute la rencontre. D'abord mené 2-0. Djamfi Bako marquant en 10e et 30e minute pour la Chanti. Les Camerounais ont réduit la marque sur penalty par Daouda Kamilou juste avant la pause. Mais les Ghanéens ont de nouveau creusé l'écart juste après le retour des vestiaires. Après une nouvelle erreur défensive, le défenseur latéral de Coton Sport est à Bawak.
Chanti Kotoko, c'est quand même une équipe à respecter. On a beaucoup fait les erreurs à la défense, ce qui a permis en sorte qu'on encaisse les buts. Mais rien n'est perdu. On va continuer à bosser pour mieux préparer le retour. Et je crois bien que par la grâce de Dieu, on va aussi pouvoir remonter. S'ils ont marqué les buts ici, pourquoi ne pas aussi marquer là-bas? Donc on va continuer à travailler. C'est très très compliqué, mais le football, c'est pas du tout facile, mais on va continuer à bosser pour remonter les buts là. Nous respectons vraiment l'équipe là et joue bien au foot. Nous, on va continuer à bosser et voir ce qui n'a pas marché pour mieux aborder le match retour.
Des propos recueillis par Étienne Arthur Defoe. Deux autres victoires à l'extérieur. Les Marocains de la Sania Agadir 1-0 chez les Éthiopiens du Jima Abba Djifar et les Nigérians d'Enugu Rangers 2-1 au Lesotho face au Bantou FC.
Mauvaise journée pour le Cameroun puisqu'il y a eu une autre défaite, celle de New Star.
Ouais. Le club de Douala qui s'est incliné 2-1 chez les Kenyans de Gormaya, mais le but à l'extérieur de Benjamin Becham en deuxième période maintient New Star en vie avant le match retour. Pas de but à l'extérieur en revanche pour les Burkinabés de Salitas, mais en s'inclinant seulement 1-0 face au Libyen d'Al Nasser, le club de Ouagadougou peut encore envisager la qualification. On note également les succès à domicile des Zambiens de Zesco United, 3-1 face aux Sud-Africains de Kaiser Chiefs, et des Soudanais d'Al Hilal, 3-0 aux dépens des Rwandais du Mukura Victory Sport, le club de Boutaré.
Belle victoire à la maison également pour un club congolais, celui de l'AS Auto Doyo.
Oui, match joué dans la ville d'Owando que le champion 2018 du Congo Brazzaville a remporté 3-0, un doublé de Moussa Yedan aux 18 et 22e minutes et une dernière réalisation signée Merveille Kikasa Samba. Résultat prometteur avant le match retour, rassurant en tout cas pour l'AS Auto, sorti en 16e de finale de la Ligue des Champions après deux matchs nuls face aux Zimbabwéens de Platinum, mais un but encaissé à domicile qui avait fait la différence. Le gardien de but congolais, Chancel Massa.
Ouais, ça nous rassure. Marquer 3 buts à domicile, c'est déjà une bonne chose. Parce qu'à l'extérieur, ouais, on sait que c'est toujours compliqué aussi. Mais nous avons aussi une équipe à laquelle on sait gérer à l'extérieur. Donc je suis très content des 3 buts qu'on a marqués ce soir. On sera contraint de se préparer en conséquence parce qu'on a vu l'adversaire, on connaît l'adversaire. Il sait jouer au ballon. Là-bas, ils auront leur public derrière eux. Mais nous, on doit jouer au football pour espérer au moins la qualif. On va pas se laisser faire. On s'est éliminé au Zimbabwe, donc on peut pas se donner encore l'avantage à l'autre de nous faire éliminer chez eux. Donc on ira là-bas pour prendre la qualif et on sera qualifié.
Chancel Massa avec Jean Ruffin, l'OMBA a noté enfin le match nul 0-0 entre les Marocains de l'Ittihad Tanger et le Zamalek du Caire.
Et puis il reste un match dans ce tour de cadrage aller de la Coupe de la Confédération. Il se jouera demain. Seront opposés la Diarave de Dakar et les Marocains de la Renaissance Sportive de Berkane.
Oui, match décalé car Dakar accueillait ce dimanche le combat de l'année en lutte traditionnelle avec frappe au Sénégal entre Balagueï et Modulo. L'occasion de rencontrer du coup le joueur vedette de la Renaissance Sportive de Berkane, Alain Traoré, l'international burkinabé aux 20 buts en 50 sélections, finaliste de la CAN 2013 qui a également fait les beaux jours d'Auxerre et de Lorient. Le grand frère de Bertrand a donné un tour inattendu à sa carrière en rejoignant le Maroc l'été dernier après plusieurs blessures et un passage raté au Qatar. Il s'en explique dans un entretien à bâton rompu avec Babacar Fall aujourd'hui.
C'était un choix sportif. Parce que là, quand je revenais du golf du Qatar, j'ai passé 3 mois sans club. Et je m'entraînais avec la réserve de Lyon. Je me suis remis en forme. J'avais des propositions pour aller en Ligue 2. Après, j'ai été contacté par le président de Berkane qui m'a exposé son projet. Et voilà, ça m'a tout de suite tiqué et j'ai parlé à mon alentour. Et avec ma famille, on a pris une décision de rejoindre Berkane. Avec l'appui du président de la Fédération Burkinabé de foot et le président de Berkane. C'est en grande partie grâce à lui que j'ai accepté ce projet-là.
Ça se passe bien à Berkane?
Oui, ça se passe très très bien. Voilà, je suis arrivé, ça fait maintenant 5 mois, on a gagné un titre déjà. Et voilà, on est bien classé au championnat et on est encore en campagne africaine. Donc ça va, tout se passe bien.
Physiquement, vous sentez bien. De rester 3 mois sans jouer, 5 mois que vous avez commencé avec Berkane, est-ce que vous êtes au top?
Oui, bien sûr, je suis au top. Voilà, j'ai marqué beaucoup de buts importants pour Berkane. Comme je l'ai dit, on a gagné les titres, la Coupe du Trône. J'ai largement participé à cette victoire. Donc voilà, je suis très très content de mon rendement en ce moment avec Berkane.
Le niveau de Berkane, ça vous va?
Le niveau, voilà, c'est un bon niveau, mais j'ai joué dans des championnats de très très haut niveau. Donc voilà.
Auxerre, Lorient, Monaco et maintenant Berkane.
Oui, voilà, mais pour... Moi qui ne connaissais pas très très bien le foot africain à part les matchs de l'équipe nationale, voilà, je trouve que c'est vraiment un bon niveau. Ce n'est pas le top top non plus, il ne faut pas se voiler la face, mais ça va. Comparé aux autres pays africains, je pense que les Maghreb ils sont un peu en avance par rapport aux autres pays africains sur le plan professionnalisme et sur le plan infrastructure. Donc voilà, ça se passe bien par rapport à ces championnats, je pense qu'il y a un bon niveau.
Comparé à l'Europe,
le football africain, on a beaucoup de retard à comparer au football européen parce qu'on manque cruellement d'infrastructures et on manque beaucoup aussi de professionnalisme. On le dit par la bouche, mais ce que moi je vois sur le terrain, c'est pas ça le professionnalisme. Il faut plus d'investissement dans la formation, dans les centres d'entraînement. Tout ça, ça fait partie de l'infrastructure, dans le médical. Par exemple, on est beaucoup en retard par rapport à l'Europe. Même le Maghreb, dans ce sens-là aussi, ils ont beaucoup à faire. Même si c'est mieux que l'Afrique noire, et ils ont aussi ces problèmes-là.
Ça vous plaît, Berkane? Vous y êtes? Vous allez y rester ou vous allez vous ambitionner de revenir un jour en Europe?
Maintenant, j'ai 30 ans, j'ai plus mes jambes de 22 ans. Mais bon, à 30 ans encore, c'est pas la fin de la carrière. Hein. Il reste encore des beaux jours à venir. Mais bon, pour l'instant, je suis bien avec Berkane. Il me reste encore un an de contrat. Et dans le football, ça peut aller vite. Mais pour l'instant, franchement, je ne me profite pas d'aller en Europe ou de rester à Berkane. Je fais ce que j'ai à faire avec eux. Après, l'avenir nous dira. Hein. Mais bon, pour l'instant, franchement, je ne me prends pas la tête. Je ne suis pas à Berkane pour dire coûte que coûte, il faut que je repars en Europe. J'ai fait ma carrière en Europe. Voilà, les gens ils ont vu ce que je pouvais faire. Mais maintenant, mon gros problème, c'est des soucis de blessures. Maintenant, j'ai réglé ces problèmes-là et on verra bien. Peut-être avec la campagne africaine, il y a des clubs qui regardent. Ça peut m'ouvrir des portes. Voilà, mais je ne suis pas là, je ne suis pas obsédé à repartir coûte que coûte en Europe.
Forcément, pour le parcours que vous avez, en décidant d'aller jouer dans le championnat marocain, vous devez peut-être gagner moins qu'en Europe, là.
Oui, forcément. Au jour d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, hein, j'ai bien gagné ma vie par le passé. Voilà, j'ai pas fait n'importe quoi. Donc, du coup, en choisissant de venir jouer au Maroc, c'était pas une question financière. C'était juste pour avoir la compétition, pour s'épanouir. Parce que, comme je l'ai dit, en Europe, j'étais rentré dans une spirale négative de blessures. Je voulais me retirer un peu, prendre un peu d'air et voir ce que ça va donner mon avenir. Parce que j'étais rentré dans un truc où j'avais plus le moral, c'était un peu compliqué. Mais maintenant, voilà, je vis bien, je suis content, je suis épanoui. Même, voilà, j'ai fait beaucoup de sacrifices côté financier, mais je viens pas en Afrique pour me faire de l'argent.
les étalons, vous lâchez pas. Vous êtes toujours appelé en équipe nationale du Burkina Faso. Croyez-vous en une qualification du Burkina pour la prochaine CAN? Il reste la dernière journée.
Oui, voilà, il reste une dernière journée à jouer chez nous à domicile. Malheureusement, on n'a plus notre destin en main. Il faut compter sur des adversaires pour se qualifier. Mais nous, on va tout faire pour gagner notre dernier match et puis espérer un miracle qu'on puisse se qualifier. Mais nous, on y croit. Hein. On y croit. On sait très bien que ça va pas être facile, mais on va tout faire pour se qualifier parce qu'on sait toujours qualifier dans la difficulté.
Qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez les étalons?
On était sur une bonne pente, on a un bon groupe qui vit bien. Je ne sais pas, franchement, je ne saurais pas vous dire ce qui n'a pas marché. Je pense que c'est un peu la déception de ne pas se qualifier en Coupe du Monde. Avec ces matchs rejoués pour le Sénégal, ça nous a mis un coup sur le moral parce qu'on avait beaucoup misé sur cette Coupe du Monde. Avec nous, notre génération qui est pratiquement en fin de cycle, donc voilà, on avait tout misé pour jouer au moins une Coupe du Monde pour le Burkina. Mais bon, après, ce n'est pas des excuses, hein. Il ne faut pas se voiler la face. On a un peu négligé cette campagne de Coupe d'Afrique. On n'a pas été gâtés non plus par les blessures. On a pratiquement joué qu'un match avec notre groupe au complet. Ça fait vraiment beaucoup pour une sélection.
Alain Traoré avec Babacar Fall, Burkina Faso, Mauritanie pour le compte de la dernière journée d'éliminatoire de la CAN 2019. C'est dans un peu plus de deux mois. Victoire obligée pour les Burkinabés face à des Mauritaniens déjà qualifiés. Des étalons qui doivent aussi espérer que l'Angola ne l'emporte pas au Botswana déjà éliminé.
La CAN 2019, justement, on sait maintenant, elle aura lieu en Égypte l'été prochain. Ce n'est pas une première pour le pays des pharaons qui l'a déjà accueilli quatre fois. Mais on peut se demander, Eric, si le pays sera prêt dans des délais aussi courts.
Oui, remplaçant au pied levé du Cameroun, l'Égypte à 5 mois pour être prêt le jour du match d'ouverture le 15 juin prochain et même plutôt 4 mois avec le Ramadan en mai, période durant laquelle le pays tourne au ralenti. Mais l'Égypte, qui a constitué son dossier pour la CAN 2019 en seulement un week-end, n'en est plus à un défi près. Le reportage de Frédéric Kunkena.
Cet après-midi, au siège de la Fédération égyptienne de football, son président Hani Ramzi et Ashraf Sobhi, ministre des Sports, ont devant les médias démarré le compte à rebours de l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Magdi Abdelrani, membre du board de la Fédération égyptienne de football.
Je suis convaincu que l'Égypte saura relever le défi en organisant de fort belle manière la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons toutes les infrastructures qu'il faut, stades, camps d'entraînement. Nous avons tout ce dont la CAN a besoin. Nous avons par le passé accueilli plusieurs CAN. Impossible n'est donc pas égyptien, ne vous inquiétez pas.
Organiser une CAN à 24 en 4 mois, voici l'équation qui se pose à l'Égypte. Son président, Abdel Fattah el-Sissi, veut en faire la meilleure édition de l'histoire. Pour faire rayonner le pays à l'international, tous les ministères ainsi que les Égyptiens seront mis à contribution. Toutefois, il faudra attendre les prochains jours pour connaître l'identité des stades qui accueilleront les 6 groupes. Maher Genena, journaliste sportif.
L'Égypte est dotée d'une multitude de stades. Rien qu'à Alexandrie, vous avez le stade d'Alexandrie, les stades militaires de Borg al-Arab et du Max. Le Max qui, d'ailleurs, a accueilli des matchs de la CAN 2006, ce qui fait 3 stades au niveau international. Au Caire, vous avez celui du Caire, Petrosport et les stades militaires du 30 juin et d'Al-Salam. À Suez, vous avez le stade militaire qui est prêt, Ismaili et Port Saïd. La CAN devrait se jouer dans les stades que je viens de mentionner. Et puis, vous avez des stades dans les stations balnéaires, dans la ville d'Alguna qui pourrait être sélectionnée.
En Égypte, la CAN 2019 domine toutes les conversations dans un pays marqué ces dernières années par une économie en berne, une inflation vertigineuse et un tourisme aux abois. Les retombées économiques engendrées par la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et l'afflux de supporters étrangers devraient relancer les affaires.
Pour nous, cette CAN est une bénédiction. Nous sommes un pays touristique, ouvert au monde entier. Cette CAN va nous faire travailler et augmenter nos revenus avec l'afflux de touristes. Les cafés et restaurants seront pleins.
Cette CAN va stimuler notre économie et se traduire par des répercussions positives pour tous les Égyptiens, à commencer par le tourisme.
La billetterie devrait aussi rapporter 5 millions de dollars. Toutefois, dans les rues du Caire, les nombreux graffitis en hommage aux 74 supporters tués lors du drame de Port Saïd en janvier 2012 viennent rappeler que la sécurité constituera le grand défi auquel devra faire face l'Égypte. Longtemps bannis des stades, les supporters ont fait leur retour en championnat cette saison, mais leur nombre reste limité à 5000 par match. Exception est faite pour les matchs continentaux et ceux de l'équipe nationale. Maher Genena, journaliste sportif.
La demi-finale Al-Masri Port Saïd AS Vita Club pour le compte de la dernière édition de la Coupe de la Confédération est la preuve qu'il n'y a aucune inquiétude à aller à Port Saïd. Le match s'est joué devant un stade plein à craquer. Le stade de Port Saïd est en mesure d'accueillir des matchs de la CAN avec des supporters sans aucun problème.
Pour garantir une affluence conforme à une compétition de cette envergure, l'armée devra faire comme lors de la CAN 2006 en Égypte, où elle garnissait les gradins avec des soldats habillés en civil. C'est pourquoi elle fait pression pour que ces stades militaires, faciles à sécuriser, soient sélectionnés pour la CAN. Qu'importe, la majorité des acteurs du football africain à l'image de Florent Ibengue, sélectionneur de RDC, mais aussi coach de l'AS Vita Club, sont confiants en la réussite de cette CAN.
Ah, je suppose que si on a choisi l'Égypte, c'est parce qu'ils avaient le meilleur dossier. Mais voilà, il y a des pays africains comme ça qui sont prêts. L'Afrique du Sud était prête, le Maroc aussi. Bon, ils ont choisi l'Égypte. Nous, on n'a rien à dire là-dessus, donc on va venir et je pense qu'il y aura la sécurité. On va jouer et faire la meilleure compétition possible.
Seule certitude, le stade du Caire accueillera le match d'ouverture de la CAN 2019.
Frédéric Quenat, Le Caire, RFI.
Et puis on l'a appris ce soir, Eric, le tirage au sort de la phase finale de cette CAN 2019 aura lieu dans la première semaine d'avril.
Merci beaucoup Eric Chorin. Direction l'Espagne, à présent, 19e journée de Liga ce week-end. Le FC Barcelone s'est baladé tout à l'heure au Camp Nou, victoire 3-0 face à Eibar. Le Barça plus que jamais leader avec 5 longueurs d'avance sur l'Atlético Madrid, chiche vainqueur de Levante 1-0. Le FC Séville est 3e à 10 longueurs des Catalans après s'être incliné chez l'Atlético Bilbao 2-0. Séville ex-aequo avec le Real Madrid qui vient de s'imposer sur le fil, sur le terrain du Betis Séville 2-1. En Angleterre, le match phare de la 22e journée de Premier League opposait cet après-midi le 3e Tottenham à Manchester United. Tom Williams, bonsoir.
Bonsoir Harry.
Vous êtes notre correspondant en Angleterre. Alors la résurrection de Manchester United se confirme. Les Red Devils sont allés battre les Spurs 1-0.
Oui, une 6e victoire consécutive pour Ole Gunnar Solskjaer, toutes compétitions confondues, et de loin la plus impressionnante. Paul Pogba a amené le but pour Marcus Rashford avec une passe lumineuse juste avant le mi-temps. Mais si United a quitté Londres avec les 3 points, c'était avant tout grâce au gardien David De Gea qui a produit une série d'arrêts magnifiques en deuxième mi-temps. United a gagné 1-0 contre Tottenham et Wembley. Et le voici à égalité de points avec Arsenal, équipe 5e au classement.
6 victoires d'affilée, c'est impressionnant. Pourquoi ça marche si bien, Tom, pour MU depuis l'arrivée de Solskjaer à la place de José Mourinho en décembre?
Tout simplement, il a redonné de la confiance aux joueurs qui étaient en difficulté avec José Mourinho, comme Pogba, qui a contribué 4 buts et 4 passes décisives depuis le départ du Portugais, et Marcus Rashford, qui a marqué 4 buts. United joue de façon beaucoup plus offensive et avec le sourire maintenant. Pogba joue maintenant dans une position plus haut sur le terrain, tandis qu'en attaque, Solskjaer privilégie la vitesse avec Rashford, Anthony Martial et Jesse Lingard. À un mois de leur confrontation avec le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, United a un air de plus en plus séduisant.
Voilà pour Manchester United. Alors le leader Liverpool, eh bien, il a connu dernièrement une passe difficile avec 2 défaites, mais les Reds se sont bien repris, victoire 1-0 à Brighton.
Oui, Liverpool a connu un début d'année compliqué avec une défaite en championnat contre Manchester City, suivie par une élimination en coupe face à Wolverhampton. Mais les hommes de Jürgen Klopp ont retrouvé le chemin de la victoire samedi au terrain de Brighton. Et c'était dans la lignée de ce qu'ils ont produit au début de la saison. Solide derrière, mais un peu poussif devant. Ils ont gagné grâce à un penalty en début de deuxième mi-temps, amené et tiré par Mo Salah. Son 14e but de la saison, il le met au même rang qu'Harry Kane et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang en tête de la liste des meilleurs buteurs en Première Ligue. City, deuxième, se trouve maintenant à 7 points de Liverpool avant son déplacement à Wolverhampton lundi.
City, deuxième devant Tottenham qui a donc été battu. Conséquence, Chelsea se rapproche à une longueur de Tottenham. Les Blues, vainqueurs hier de Newcastle de Buzan. L'équipe qui inquiète un petit peu en ce moment, c'est Arsenal, cinquième à 6 longueurs de Chelsea. Les Gunners battus à West Ham 1-0, grâce d'ailleurs au retour en grâce d'un certain Français, Samir Nasri.
Oui, Samir Nasri, ancien joueur d'Arsenal, bien sûr, a connu une année d'enfer après une suspension de 10 mois pour le dopage, ayant bénéficié d'une perfusion intraveineuse de vitamines dans une clinique de Los Angeles. Le milieu de terrain de 31 ans a fait un bon retour en coupe contre Birmingham et pour son premier match de championnat, il a de nouveau été rayonnant face à son ancien club. Positionné dans un poste de meneur de jeu axial, il ne cessait pas de provoquer balle au pied et c'est même lui qui a créé le but de la victoire pour West Ham avec une passe décisive pour le jeune Declan Rice.
West Ham qui bat donc Arsenal, les Gunners qui coincent en ce moment, est-ce qu'il y a une explication ?
Oui, on connaît tous la qualité offensive d'Arsenal, mais leurs attaquants n'ont pas assez créé contre West Ham avec Pierre-Emerick Aubameyang particulièrement discret. Derrière, l'entraîneur Unai Emery continue de faire face à des problèmes défensifs et une frilosité criante. Ça fait maintenant plus d'un mois sans clean sheet pour les Gunners et ça commence à peser.
Et Arsenal qui jouera un match vraiment déterminant samedi prochain contre Chelsea. Thank you very much, Mr. Tom Williams.
Merci, Eric.
Et il y a aussi des matchs en France. 20e journée de Ligue 1, 4 matchs ce dimanche. Rennes s'est imposé à Nantes 1-0. Strasbourg à Toulouse 2-1. Un partout entre Dijon et Montpellier. Puis actuellement se termine le choc de la Côte d'Azur entre l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco. C'est presque fini. Un but partout. Nous dirons tout à l'heure au stade Vélodrome rejoindre Stéphane Burgat pour nous raconter tout ça. Avant cela, on parle tennis. Roger Federer réalisera-t-il la passe de 3 à Melbourne ? Dans à peine 2 heures débute l'Open d'Australie, le premier grand chelem de tennis de l'année. Le Suisse 3e mondial est double tenant du titre et aimerait bien décrocher le 21e trophée majeur de sa carrière. Va-t-il y arriver ? Pour répondre à cette question et décliner la liste des favoris, eh bien nous accueillons Arnaud Di Pasquale. Bonsoir.
Bonsoir.
Ancien DTN du tennis français, ancien vainqueur de Roger Federer, oui, aux Jeux Olympiques de Sydney en l'an 2000, dans le match pour la médaille de bronze. Bon, depuis, le Suisse a fait un petit peu de chemin, vous avez pris votre retraite. Et il est toujours là, le bon Roger, à 37 ans, et apparemment, Arnaud, eh bien, il respire la santé en ce début d'année.
Oui, en effet, je l'ai trouvé très en forme encore pour l'avoir vu évoluer là sur la Open Cup, gagner tous ses matchs, vraiment en produisant un jeu très intéressant puisque très en confiance très rapidement avec un très bon service, un très bon déplacement surtout, donc physiquement très au point, une qualité de retour pareil, quasi parfaite. Et un plaisir, une joie sur le terrain. Donc tous les ingrédients en effet sont réunis pour le voir de nouveau briller sur cette Open d'Australie.
Roger Federer pourrait retrouver Rafael Nadal en demi-finale, mais l'Espagnol, c'est un petit peu l'énigme. Il n'a plus joué depuis l'US Open, son corps souffre, grince un petit peu de partout. Est-ce que déjà c'est possible de le voir aller jusqu'en demi-finale ?
Ouais, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de points d'interrogation concernant Rafael Nadal. En effet, là, est-ce que son corps va suivre ? Enfin, en tout cas, c'est de plus en plus dur, ce qui fait que c'est pas simple. Il a dû se retirer des compétitions sur lesquelles il était engagé en début d'année. Là, est-ce qu'il sera fin prêt ? Il y a quelques douleurs à droite, à gauche qui l'empêchent vraiment de jouer son meilleur niveau aujourd'hui. Donc, c'est vraiment compliqué de savoir comment va se comporter sur cette Open d'Australie Rafael Nadal. Mais encore une fois, voilà, s'il rentre sur le terrain, ça voudra dire quand même qu'il aura envie d'en découdre et quand il est sur le terrain, il est toujours très 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 difficile à battre, donc méfiance.
De l'autre côté du tableau, bah, il y a un favori logique, Novak Djokovic, 6 fois vainqueur de l'Open d'Australie, comme Federer et Roy Emerson, l'Australien, c'est le record. Le Serbe, bah, il a gagné les 2 derniers tournois du Grand Chelem à Wimbledon et à l'US Open. On a un petit peu l'impression que depuis, là, il a un petit peu décliné. Est-ce que c'est inquiétant pour lui ?
Alors moi, ça m'inquiète pas du tout. Hein. En fin d'année dernière, c'est vrai qu'il perd sur la finale du Rolex Masters à Bercy, mais en finale parce que je crois qu'il avait vraiment atteint l'ensemble de ses objectifs. Derrière, finale au Masters de Londres, où il perd de nouveau, mais je crois qu'il avait laissé quand même beaucoup d'énergie sur les 6 mois passés où il était devenu quasiment invincible de nouveau. Là, c'est vrai que ce début d'année, une défaite sur Bautista Agut au tournoi de Doha, mais je crois pas que ce soit un bon indicateur. Au contraire, ça peut même être un mal pour un bien. Ça peut peut-être l'avoir fait réagir. On sait très bien que Melbourne, il adore, vous l'avez dit, il a gagné 6 fois. Moi, je suis pas très inquiet. C'est encore une fois un immense champion, un immense joueur capable de se préparer non pas pour le tournoi préparatoire, mais au contraire pour le Grand Chelem. Donc, il sera prêt et au fil des matchs, je suis convaincu qu'il arrivera à retrouver le niveau qu'il a eu à un moment donné l'année dernière.
Alors Djokovic au Masters de Londres avait perdu en finale contre Alexander Zverev, le jeune Allemand, 21 ans. C'était son grand coup d'éclat, Alexander Zverev, qui n'a jamais encore brillé véritablement en grand chelem. Il plafonne pour l'instant en quart de finale. Est-ce que pour lui, bien 2019, ça va être la bonne année, pourquoi pas déjà à Melbourne?
Ouais, c'est exactement ça. La question, moi, que je me pose depuis un moment, c'est à quel moment, finalement, va-t-on assister un petit peu au passage de témoin? À quel moment les petits jeunes, et dont Zverev, vont arriver et prendre la suite? Je crois que le Masters de Londres aura certainement servi de catalyseur pour Alexander Zverev. Il avait jamais remporté de titre majeur. Alors, c'est pas un grand chelem, c'est quand même différent. C'est sur une semaine, sur des matchs en 2-7. Enfin, la difficulté est, je dis pas moindre, parce que ce sont quand même les 8 meilleurs joueurs du monde, mais elle est différente. Là, on va voir comment il va se comporter. Je pense qu'il a quand même accumulé une certaine confiance grâce à cette victoire qui lui permettra cette année peut-être d'aller remporter, si c'est pas à l'Open d'Australie, peut-être après, son premier grand chelem.
Alors au rayon des outsiders, on ne peut pas citer Juan Martín Del Potro qui est forfait, toujours un petit peu convalescent. Stan Wawrinka se remet d'une blessure au genou, il revient bien, lui qui a gagné l'Open d'Australie en 2014. Nishikori, le japonais, a gagné à Brisbane, il y aura aussi Marin Cilic. Puis bon, il faut parler des joueurs français, alors que peut-on attendre d'eux? Ils ont nettement reculé au classement après une médiocre année 2018, alors... Arnaud Di Pasquale, Tsonga, mon fils, Simon, père, Lucas Pouille, est-ce que l'un d'entre eux peut-il atteindre la deuxième semaine?
Aller en deuxième semaine, enfin, je crois que c'est envisageable. Ils en ont les qualités, ils en ont le potentiel. Enfin, alors, je sais qu'on répète ça à chaque fois, mais il y a eu du travail. Ils ont déjà réalisé de très bons résultats. Je pense notamment à Lucas qui a déjà fait deux quarts de finale en Grand Chelem en battant des joueurs du top 10. Enfin, c'est pas rien, ce sont des références dont il doit se servir. Mais encore une fois, la confiance ne revient pas du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine. Mais il y a de l'envie au regard justement, enfin voilà, des nouveaux staffs qu'ils ont mis en place chacun, enfin de leur côté. C'est un bon indicateur sur justement leur détermination. Donc, je ne sais pas si c'est tout de suite que ça va payer, mais il y a bien un moment ou un autre où ils seront récompensés de leurs efforts.
Alors Arnaud, jusqu'en 2017, on avait l'habitude de placer dans la liste des favoris Andy Murray. Ce ne sera apparemment plus jamais le cas puisque l'ex numéro 1 mondial, ex membre du fameux Big Four, a annoncé vendredi sa prochaine retraite, normalement lors du prochain Wimbledon, si sa hanche, toujours douloureuse malgré une opération l'an dernier, le lui permet. La retraite donc à 31 ans pour Andy Murray, c'est toujours un petit peu triste de voir un joueur trahi par son corps et ne pas pouvoir choisir le moment de sa retraite.
Ouais, c'est très dur d'écouter, de le voir. En plus, c'est quelqu'un de très attachant, qui a toujours été combatif, accrocheur comme jamais, qui a permis aussi à Federer, à Djokovic, à Nadal de se surpasser, de se renouveler. Il a contribué vraiment à faire progresser, je crois, son sport et ses joueurs dont je viens de parler. Et trois grands chelems. Et à côté de ça, c'est quelqu'un d'extrêmement humain, plein d'humour, de profondément, enfin, je crois, apprécié dans le vestiaire. Et ouais, c'est un coup dur en effet, parce que c'est triste de le voir devoir justement quitter la scène comme ça, sans que ce soit une décision de sa part.
Merci beaucoup Arnaud Di Pasquale. Andy Murray qui joue son premier tour à Melbourne tout à l'heure contre le coriace espagnol Roberto Bautista Agut. Peut-être donc le dernier match de sa carrière au programme également de cette première journée. Federer, Nadal, Marin Cilic et côté français Caroline Garcia, Kristina Mladenovic, Gaël Monfils et Adrian Manarino opposés au sud-africain Kevin Anderson. C'est terminé au stade Vélodrome de Marseille. C'était le choc de cette 20e journée de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco. Marseille qui n'allait pas bien du tout avec une récente élimination en Coupe de France, sorti par un club de 4e division française. Marseille qui essayait de se relancer face à un adversaire monégasque qui venait de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de France, de la Ligue, pardon. Eh bien, c'est raté. Un but partout ce soir au Vélodrome entre Marseille et Monaco. Maxime Lopez avait pourtant ouvert la marque pour les Olympiens à la 13e minute. Égalisation. Il y aurait Tielemans avant la mi-temps. Marseille qui donc ne décolle toujours pas 9e au classement. Voilà, c'est terminé pour ce dimanche. Merci à Hélène Avril et Jean-Philippe Thury qui étaient à la réalisation. Je vous souhaite une très très bonne fin de week-end et une très bonne semaine à l'écoute de Radio France Internationale. Bonne soirée, au revoir.